religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quoi de plus réjouissant pour ouvrir cette année 2021 que la sagesse, le savoir et l'optimisme d'un homme de 88 ans qui a passé sa vie la tête dans les étoiles et à nous raconter avec générosité et pédagogie la vie du cosmos. La fureur de vivre, c'est le titre du dernier livre de l'astrophysicien Hubert Reeves aux éditions du Seuil. La fureur de vivre est conçue comme un diaporama avec des images du cosmos et de la Terre, des gnous qui se battent pour une femelle, un ours qui avale un poisson dans le courant d'un torrent, la naissance d'une étoile, une forêt dans la brume. Hubert Reeves, engagé dans la défense de l'environnement, rappelle au fil des pages cette force de vie mystérieuse, cette énergie cosmique qui accompagne le monde depuis la nuit des temps. Le lecteur ne manquera pas de reprendre la célèbre question de Leibniz, pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Question que j'ai bien sûr posée à Hubert Reeves. Mais avant cet échange entre science et métaphysique, il y a ce titre, Fureur de vivre, qui résonne comme un électrochoc dans un monde anesthésié par la Covid.
Oui, à cette période, avec tous les problèmes qu'on a, on a bien besoin de se rappeler de la puissance de la vie et que la vie en a vu d'autres et qu'elle a toujours réussi à vaincre. Et c'est un des éléments. J'ai commencé ce livre il y a plusieurs années, donc c'est un peu par hasard qu'il tombe tout juste au moment de cette pandémie. Mais maintenant, je sens que c'est tout à fait important aujourd'hui de rappeler cela, étant donné cette espèce de, pas de désespoir, mais de langueur, de déprime que l'on voit un petit peu aujourd'hui, je peux comprendre, surtout pour les enfants. Pour les enfants, ils se demandent qu'est-ce qui se passe et quel va être leur avenir, et personne ne peut leur dire. Donc ça demande une sorte de courage, d'énergie pour essayer d'affronter ces problèmes où l'avenir est tout à fait inconnu aujourd'hui. On ne sait pas du tout où on sera et comment dans un an, par exemple. De même que personne n'a deviné vraiment que nous allions basculer dans cette crise en plein milieu de l'année 2020. C'est ça qui est étonnant, c'est cette capacité qu'a la réalité de changer complètement, d'être imprévisible au total.
Votre livre, Hubert Reeves, est un livre plein d'optimisme, parce que ce qu'il décrit, c'est que depuis les origines, nous avons en nous cette force que vous allez nous définir, qui fait que, eh bien, l'humanité a traversé et continuera de traverser les difficultés qu'elle est programmée pour cela.
Je ne sais pas si le mot programmé est le bon mot, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il est clair maintenant qu'il y a dans la nature une intelligence folle. On le voit dans tous ces mécanismes extraordinaires de la vie. Par exemple, moi je suis toujours étonné le fait que quand vous mangez, c'est un acte banal. Manger, votre corps est un merveilleux laboratoire de chimie. Pourquoi ? Parce que vous mettez des atomes variés dans tout ce que vous mangez. Votre corps va les séparer, va les analyser et va les renvoyer où ils sont nécessaires. Par exemple, si vous avez des atomes de sodium et que vos yeux en ont besoin, bien, votre corps sait qu'il faut mettre ces atomes dans le sang, et je trouve ça absolument fantastique. Donc cette extraordinaire intelligence de la nature, dans ce livre, j'ai pris le parti de ne pas discuter des problèmes métaphysiques, parce que je trouve que ça fausse un petit peu toujours la situation, de dire c'est le hasard, non c'est pas le hasard, c'est Dieu, non c'est pas Dieu. L'intéressant aujourd'hui, c'est de constater jusqu'à quel point la vie est puissante en nous, c'est telle qui fait que votre cœur continue à battre en ce moment, qu'il envoie le sang partout dans vos veines. Il y a une industrie absolument fantastique et c'est intéressant d'être simplement en étonnement vis-à-vis de ce phénomène. Le considérer, encore une fois, sans chercher à l'expliquer, mais le constater. On peut chercher à l'expliquer plus tard, mais dans une première étape, on constate et on trouve que c'est fantastique. Et que moi, je ne crois pas du tout au hasard, je ne crois pas que le hasard soit responsable de Beethoven, ça me paraît un peu gros. La question de la source de cette puissance, je ne la connais pas, pour moi c'est un grand mystère. Bon, on peut y voir l'acte de Dieu, les croyants y verront l'acte de Dieu, et je comprends très bien. Moi, j'ai plutôt des questions de savoir qu'est-ce que c'est exactement, mais le but du livre était de dire d'abord, le constater, Votre corps n'est pas un truc banal. La vie est quelque chose de précieux, quelque chose qu'il faut essayer de conserver, quelque chose qui, notre premier devoir aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, c'est de garder la terre habitable, de garder la terre habitable pour nos enfants et nos petits-enfants, et donc que ça puisse continuer, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, la terre n'est pas menacée, elle va continuer à tourner sans problème, mais est-ce que l'humanité va durer? Ça, c'est une question ouverte aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent c'est foutu, je suis pas d'accord avec ceux qui disent il y a pas de problème, il y a des problèmes très sérieux, mais l'avenir est inconnu et il est possible que la vie gagne.
En illustration de cette pulsion de vie inscrite dans la création, je vous propose un extrait des 4 saisons de Vivaldi, interprété en distanciel par des musiciens amateurs appartenant au monde des soignants, et cela sous la direction du violoniste Joshua Bell, en hommage au personnel médical. Ce qui vous fascine, c'est l'organisation de notre univers.
L'aspect particulier de notre univers, c'est qu'il est extrêmement richement organisé. Pratiquement à toutes les dimensions, il y a des structures. Dans les plus grandes, il y a des galaxies, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a de la vie sur Terre, évidemment, en tout cas, il y en a ici. Il y en a plusieurs dizaines de millions d'espèces, c'est fantastique. Il y en a jusqu'au fond des océans, jusqu'à dans la stratosphère, il y a de la vie partout. Et au point de vue organisation, quand on descend dans l'échelle, on arrive au niveau des molécules, il y en a tant que vous voulez, des atomes, il y en a. Notre univers est très richement structuré. Et la grande leçon de l'astrophysique aujourd'hui, c'est que ce n'était pas le cas dans le passé. Nous avons maintenant des images de l'univers, le rayonnement fossile, qui nous dit quel était l'état de l'univers près de sa naissance. Eh bien, c'est totalement différent. Il n'y a aucune galaxie, il n'y a aucune étoile, il n'y a aucune planète, il n'y a aucun être vivant, bien sûr. Il n'y a aucune molécule, il n'y a même pas d'atome. Il y a une espèce de magma incandescent, très chaud, qui... Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment cette matière totalement désorganisée s'est progressivement organisée pour fabriquer des atomes, des molécules, et puis des planètes, et sur les planètes, la vie qui apparaît, on ne sait pas comment, mais on voit bien qu'elle est là, et que cette vie évolue à partir de ces petites molécules unicellulaires jusqu'aux mammifères, et sur le plan de la complexité, on a toute raison de penser que la structure la plus complexe, la plus efficace aujourd'hui, c'est le cerveau humain. Évidemment, on n'a pas de preuve qu'il n'y en a pas ailleurs, c'est possible, on ne sait pas. Mais ça, en tout cas, c'est clair que le cerveau humain est comme un des chefs-d'œuvre de cette pulsion, je ne sais pas comment la traduire, ce qu'on observe. La nommer, c'est autre chose, l'expliquer, c'est autre chose, mais l'observer, c'est facile. On voit bien sur la Terre... comment il y a eu cette complexité et comment aujourd'hui l'astronomie nous l'apprend, comment c'est quelque chose qui s'est formé progressivement. Et ça, c'est une propriété très importante de notre univers, c'est ça. C'est que notre univers est un lieu où il y a eu cette croissance de la complexité au cours des âges et ça a pris des quantités de phénomènes de physique, de chimie, de biologie. Toute la science est là, ça prend toute la science. Chaque science est un chapitre de comment ça s'est produit, mais ça, c'est un fait. Donc, on voit qu'il y a du côté de la matière, de l'univers, une sorte, mais je mets des guillemets, une sorte de pulsion, la matière aime s'organiser. La preuve, c'est qu'elle l'a fait.
Le fait qu'il y ait de l'ordre plutôt que du désordre, que du chaos, est-ce que ça ne pose pas une question métaphysique?
Oui, tout à fait, je suis tout à fait de votre avis. Ça pose des problèmes. À quoi ça rime? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans tout cela? Pour la question de Dieu, moi, quand j'étais enfant, j'étais au Québec et j'étais un bon catholique, croyant, tout ça. Progressivement, je me suis posé des questions, justement. Et ces questions, aujourd'hui, me rendent... je n'ai plus de réponse. Mais je suis intéressé à la question. Elle me fascine toujours. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça rime? À quoi rime notre existence? Ça reste pour moi des problèmes fondamentaux. Et ma façon de répondre, je dirais une façon que j'ai trouvée, si je me demande, est-ce que la vie a un sens? Je la poserai autrement. En tant qu'être vivant, avons-nous des responsabilités? Des responsabilités à grande échelle, pas simplement terre à terre, à grande échelle. Alors, il y a trois éléments qui m'amènent à dire que je vais, pour moi, comme je n'ai plus de réponses, je vais me faire mes réponses. Et je vais me faire mes réponses, et ces réponses, elles se déclinent en trois choses. La première chose, celle que je viens de vous dire, on observe que dans l'univers, il y a une croissance de la complexité. C'est comme si c'était dans la nature de la réalité de se complexifier et d'arriver au sommet de complexité que représentent les animaux, le cerveau humain, etc. Donc ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que c'est grâce à cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un des résultats de cette histoire. Nous sommes nés avec notre gros cerveau parce qu'il y a eu dans le cosmos cette évolution. Donc, premier point, il y a cette histoire de la matière. Deux, nous sommes un des produits de cette vie que nous vivons, et elle est reliée. Nous avons cette intimité, si on peut dire, avec la matière, avec la nature. Et le troisième point, c'est de constater que toute cette belle histoire aujourd'hui est menacée. Et menacée de quoi? Ben, vous le savez, c'est ce qu'on appelle la sixième extinction, l'armement nucléaire qui a failli nous faire tous sauter pendant la guerre froide. Maintenant, on sait tout ce qui s'est passé pendant cette guerre froide et on en tremble. On se dit, mais il y a plusieurs reprises, on est venu à deux doigts de tout faire sauter. Donc, un, nous devons à cette nature notre existence et notre intelligence. Deux, nous sommes, tout cela est menacé. Alors, la conclusion, c'est que notre devoir aujourd'hui, si nous avons une responsabilité, c'est justement d'essayer de garder la Terre habitable pour les enfants et les petits-enfants. Vous voyez, ce que je trouve intéressant dans tout cela, c'est qu'il se crée comme ça une possibilité d'un idéal qui a du sens. Et je pense à ces phrases d'Edgar Morin qui disait « Quelqu'un qui vivait dans les années 30 et 40, mais qu'est-ce qu'il avait devant lui comme idéal ?» Le nazisme, le stalinisme, c'était pas des idéaux défendables d'une façon un peu morale, un peu digne, c'était des choses plutôt indignes, disons. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un idéal qui est acceptable, qui a sa noblesse et sa dignité. Donc, en ce sens, moi, et cette réponse est personnelle, je veux pas te donner des conseils aux gens. Je peux dire, s'ils me demandent pourquoi je fais ça moi, pourquoi je m'occupe d'écologie et tout ça, c'est justement parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. C'est plutôt le côté affectif d'humaniser l'humanité pour que l'humanité se comporte un peu mieux et qu'elle se rende compte de ce qu'elle a eu comme chance et qu'elle se rende compte de ce que tout cela est menacé et que si on n'agit pas, tout ça pourrait disparaître. Donc c'est un petit peu ce que je dirais sur la question de Dieu. Je suis maintenant plein de questions, je n'ai plus de certitude, mais j'ai cette vision qui est notre responsabilité par rapport à l'humanité.
Est-ce que vous seriez dans la ligne de Spinoza pour qui Dieu, eh ben, c'était le cosmos?
Oui, tout à fait. La seule chose où je diffère, et ce n'est pas sa faute parce qu'il est né trop tôt, si on peut dire, c'est que Spinoza est dans une optique de déterminisme absolu. Les choses sont programmées à l'avance, vous n'avez pas le choix, vous n'avez aucun libre arbitre. Ça, maintenant, avec la physique quantique qui est apparue dans les années 1925, donc bien après la mort de Spinoza, il ne pouvait pas savoir. Maintenant, c'est tout à fait admis qu'il y a du hasard dans la nature et que ce hasard est en fait l'élément du fait que nous sommes libres. C'est Bergson, en définitive, c'est lui qui avait beaucoup de plus développé ça, le fait que l'avenir n'est pas écrit. Vous voyez, si tout était écrit à l'avance, ben quel choix auriez-vous? Vous auriez qu'une seule possibilité, c'est celle qui est écrite. C'est le mektoub des Arabes, c'était écrit. Mais maintenant, on sait qu'en physique, ça n'est pas cela. Il y a des éléments qui restent aléatoires avec la physique aujourd'hui. Ça, c'est un changement important dans la façon de penser. Thank you.
dans un des articles que vous avez publié, vous avez une phrase qui m'a quand même étonnée. Vous avez dit, finalement, concernant la création, l'origine de la création, le mystère de la création, on n'a pas avancé d'un pouce.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a une théorie. Cette théorie nous permet le Big Bang. Ça nous permet de retrouver le passé du cosmos avec une certaine précision. Il y a encore des problèmes, mais c'est assez bon. Jusqu'à 14 milliards d'années. Mais on n'a absolument rien pour nous dire ce qu'il y avait avant. Et même s'il y avait un avant. Parce que pour qu'il y ait un avant, il faut qu'on ait des preuves. En science, on croit avec des observations. Si vous aviez des observations, vous ne diriez pas que c'est le début. L'idée, c'est un petit peu une contestation de l'idée de création. L'idée de création qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans la plupart des cosmologies, c'est une idée qui prend pour acquis qu'il y avait quelque chose avant. Parce que qu'est-ce que c'est que la création? C'est le passage de rien à quelque chose. Dieu créa la terre et le ciel, donc au départ, et ça vous retrouvez ça chez les Chinois, vous trouvez ça dans énormément de religions, eh bien cette idée suppose que vous savez qu'il fut un temps où il n'y avait rien. Mais vous n'avez aucune idée. D'ailleurs, je ne vois pas comment vous pourriez en avoir une idée puisqu'il n'y avait rien. En science, on ne parle que d'événements, de faits, de choses, mais rien, c'est impossible à vérifier. Si je vous dis, donnez-moi des preves qu'il fut un temps où il n'y avait rien, vous ne pouvez pas m'en donner parce que justement, il n'y avait rien. Donc, c'est ça. C'est cette idée que les sciences nous parlent du passé de l'univers, nous permettent de remonter à 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, c'est aussi l'âge des plus vieilles étoiles. C'est ça qui est intéressant. On trouve plusieurs façons de dater les plus vieilles objets du cosmos en supposant que l'univers existe depuis 14-15 milliards d'années. Les plus vieux atomes, on trouve aussi ça. Et puis avec l'expansion, on trouve aussi ça. Alors quand on a trois éléments qui concordent et qui portent sur des sujets totalement différents, c'est encourageant. On se dit, on n'est peut-être pas dans le vide, on est peut-être dans quelque chose qui a une consistance.
Est-ce que vous êtes de ces scientifiques qui disent, mais finalement, plus la science avance, plus le mystère s'épaissit?
Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire grosso modo une phrase qu'on dit souvent, chaque nouvelle découverte pose 10 questions. Grosso modo, c'est assez vrai. Il y a encore beaucoup de choses dont nous n'avons pas la moindre idée. Et en particulier, il y a deux questions, moi je pense, auxquelles jusqu'ici on n'a aucune réponse possible. La première, c'est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ça, c'était la formule de Leibniz. Et ça, vous vous dites, on ne peut pas trouver de réponse. Parce que si vous dites qu'il n'y avait rien et pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, vous devez dire, je prends pour acquis qu'il y a quelque chose. Et après, je me demande comment ça se passe. Là, je peux développer la science. Mais si vous me demandez pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, c'est pas une question scientifique, c'est une question métaphysique. Elle peut se poser, mais je crois qu'on peut accepter qu'on ne trouvera jamais de réponse. Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, c'est pourquoi ce quelque chose s'est organisé plutôt que de ne pas s'organiser. Pourquoi il y a des lois de la physique, des lois des sciences? Comment ça se fait que nous trouvons non seulement qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose est associé de forces qui lui permettent de s'organiser et que la réalité, c'est qu'il s'est organisé? Alors, il y a une autre question aussi qui est intéressante. C'est une question, est-ce que vous connaissez cette histoire de ce Chinois qui rêve d'un papillon? C'est une légende chinoise. Il rêve d'un papillon et dans son rêve, il se voit en tant que papillon et il se dit, mais est-ce que c'est pas moi le papillon qui rêve et est-ce que l'état dans lequel j'étais n'est pas mon rêve? Ça, il n'y a pas de réponse possible. Vous êtes obligé de dire, moi, je choisis de dire que c'est moi qui suis éveillé et pas le papillon. Autrement, si vous entrez dans les détails logiques, vous êtes foutu. Il n'y a pas de possibilité. Peut-être que vous êtes en train de rêver en ce moment. Il faut, à un moment donné, arrêter et dire, je prends ça pour acquis Je prends pour acquis que je ne suis pas un papillon en train de rêver. Voyez.
Et je prends pour acquis que Hubert Reeves est en face de moi. Ça vous va?
Oui, tout à fait. Je prends ça pour acquis et vous en face de moi.
Notre cosmos, Hubert Reeves, c'est construit à partir de la gravité, c'est bien cela?
C'est une des forces.
C'est une des forces. Qu'est-ce qu'il y avait avant la gravité? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Et pourquoi la gravité?
Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser et auxquelles on n'a pas l'ombre d'une réponse. Tout ce fondement, cet arrière-pays de la science, on observe qu'il y a quatre forces, la gravité, la force électromagnétique, et deux variétés de forces nucléaires, on observe ça. Et on régulièrement, quelqu'un en trouve une cinquième, et puis on s'aperçoit que non, c'était pas ça. Donc la science, c'est beaucoup une observation. J'observe que vous avez deux yeux, pas trois. Si je vous demande pourquoi, je n'ai pas la moindre réponse, et vous non plus. Ça fait partie des faits donnés par l'observation. En science, l'observation, c'est la reine. Tant qu'une théorie n'est pas confirmée par des observations, elle reste incertaine. Le fait que l'âge de l'univers peut être mesuré de trois façons différentes, une façon astronomique, les galaxies, une façon de physique nucléaire, les laboratoires, l'âge des atomes, et une autre façon qui est plus, qui est un peu reliée aux deux, mais n'importe, donne à peu près le même âge, ce sont des indications que vous êtes sur la bonne voie. On ne peut accepter des connaissances que s'il y a un moyen de demander une expérience dont la réponse va dire oui ou non. Si la réponse ne colle pas du tout avec la théorie, ben vous en changez, c'est tout.
Est-ce que le fait d'être un scientifique, finalement, vous porte vers l'athéisme ou l'agnosticisme?
Rien à voir. C'est, oui, je ne devrais pas dire rien à voir. Je dirais, moi, ce qui m'émerveille toujours, c'est l'intelligence de la nature. C'est justement des faits comme celui que je vous ai dit, qui posent des questions. Mais je pense que l'athéisme, c'est un tout autre problème. Pour moi, la science, c'est ce qui vous enseigne sur comment ça marche. La religion, la philosophie, c'est qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et pour la vie, c'est essentiel. Même si c'est quelque chose... Oui, c'est essentiel. Alors, par exemple, si vous vous intéressez à l'énergie nucléaire, ben, vous faites de la science pour apprendre ce que c'est. Mais si vous demandez à ce qu'il faut se servir de l'énergie nucléaire ou des nanotechnologies ou des OGM et tout ça, la science ne peut pas vous répondre. Parce que la science, elle peut vous dire comment marche l'OGM, mais elle ne sait pas dans ses cordes de juger, de jauger de la valeur de quelque chose. Parce que pour jauger de la valeur de quelque chose, il faut que vous ayez d'abord une idée de cette chose. Par exemple, le corps humain, l'esprit humain, l'humanité. Par exemple, si vous arrivez à la conclusion que les humains ont beaucoup de malheur, ce qui était toujours le raisonnement de Platon, qui disait, si vous voulez sortir du malheur, il faut d'abord être moral. Eh bien, la religion, c'est grosso modo la fonction, les fonctions des religions ont toujours été de codifier le comportement. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est en ce sens que les religions sont importantes, la morale, la philosophie, qu'est-ce que ça vaut? C'est deux questions. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça vaut? Et c'est en ce sens-là que, pour moi, il n'y a aucun rapport. La science n'a rien à voir avec les valeurs, et la philosophie et la religion n'ont rien à voir avec le détail du comment ça marche. C'est pas parce que l'univers ne s'est pas créé en 7 jours qu'on peut dire que la religion est en tort. C'est pas son domaine. La religion n'est pas faite pour vous dire quel est l'âge de l'univers, mais de vous dire comment vivre votre vie, je pense. Pour moi, c'est ça l'idée. Pour ça que je pense qu'il n'y a pas de rapport entre les deux et que c'est toujours un mauvais combat. C'est quand ceux qui travaillent dans un domaine envahissent l'autre domaine. Par exemple, le cas de Galilée. C'est quand l'Église catholique disait à Galilée, c'est ce que vous dites est faux. les invasions territoriales. C'est quand les scientifiques envahissent le domaine religieux ou les religieux envahissent le domaine scientifique. Quand on disait à Darwin que ses théories ne valaient rien, c'était au nom de l'Église. C'était pas valable non plus.
Fait peur précisément Hubert Reeves aujourd'hui dans les avancées techniques, scientifiques concernant l'homme?
La chose qui me fait le plus peur, elle est résumée dans ce livre qui s'appelle Brave New World. Vous connaissez ce livre? C'est ce livre où la vie des gens devient essentiellement prisonnière du régime. C'est-à-dire le fait que, et ça c'est présent aujourd'hui, on le sait, ces enquêtes sur l'identité des gens qui sont mis dans des grandes données et qui permettent de réduire la vie à celle de ce qu'il y a dans Brave New World, c'est-à-dire des petits jeux, des petits génies qui font de n'importe quoi, enfin, des esclaves programmés. C'est cette domination que donne l'informatique sur la liberté. C'est qu'en définitive, on sent qu'on est de plus en plus fiché, et cette fiche, si elle avait existé au temps de Staline ou au temps d'Hitler, ça aurait pu aller très mal. Et aujourd'hui, ça devient possible. Cette domination qu'il y a en ce moment de ces GAFA, c'est-à-dire tous ces gens qui recèlent, qui dirigent l'information, qui pourraient tendre à transformer l'humanité en une fourmilière, où on aurait chacun notre programme, où il n'y aurait plus de liberté, où il n'y aurait plus de créativité, où nous serions tous des petits numéros fichés. C'est ça que je trouve le plus terrible. Le fait qu'il y ait cette humanité augmentée dont on en parle ne me paraît pas nécessairement négatif. Par exemple, si on arrive à rendre la vue aux aveugles et à donner la possibilité de marcher, c'est certainement formidable. Je pense que c'est comme toutes les inventions. Je fais une comparaison avec un moment où on a inventé le feu, il y a 40 000 ans. Quand on a inventé le feu, avec le feu, vous pouvez chauffer votre famille et vous pouvez mettre le feu à la maison du voisin. Avec l'énergie électrique, vous pouvez éclairer, vous pouvez faire la chaise électrique. L'important, ce n'est pas ce que ça donne, c'est comment on la gère. C'est qui prend les décisions, qui décide, à qui le pouvoir est-il entre les mains. C'est ça qu'il faut protéger aujourd'hui et qu'on essaie de voir. Est-ce que l'Internet, ça a aussi beaucoup de belles qualités, on est très content de l'avoir, mais il faut se dire que toute innovation pose le problème de qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc, on peut prévoir qu'il y aura, peut-être la vie durera plus longtemps, est-ce qu'on deviendra éternel, et est-ce qu'on le désire, c'est une autre question. Mais moi, je ne crois pas beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup de vantardises dans ces prétentions de ces intelligences artificielles. Mais c'est une bonne chose si c'est utilisé dans un sens positif.
Vous la prendriez, la vie éternelle, si on vous la proposait, Hubert Reeves?
Vous connaissez l'histoire du vaisseau fantôme de Wagner, cet homme qui est condamné à vivre éternellement jusqu'à ce qu'il trouve une femme qui veuille de lui. Bien, vous rendez compte, si on vous disait maintenant vous allez vivre éternellement, comme disait Boris Vian, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Vous vous souvenez de cette phrase? Ben, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'on est bien coincé, parce qu'en fait, si on vous dit vous allez mourir, vous allez dire, ah ben non, encore un jour de plus. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le vieil homme et la mort. Bon, personne n'a envie de mourir, mais si on vous dit non, vous allez vivre éternellement, vous imaginez dans 1000 ans, dans 10 000 ans, vous pouvez trouver que ça devient longuet, et peut-être vous implorer le ciel de vous d'achever.
Est-ce que vous retenez de l'existence, Hubert Reeves, d'abord son côté beau, magnifique, ou bien sa tragédie et le côté tragique de l'existence?
Les deux. Je crois que les deux, l'existence, c'est tout ça. C'est quelque chose de sublime et aussi quelque chose de tragique. Souvent, j'ai des gens qui me demandent, de nouveaux couples, qui disent, est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir des enfants aujourd'hui? Et je leur réponds ceci. Je vais vous poser, moi, une question. Si on vous demandait à vous maintenant, est-ce que vous seriez prêt à rempiler? Si vous dites que oui, parce que dans votre vie, malgré toutes les difficultés que vous avez, au total, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous estimez, que vous appréciez, mais n'en privez pas vos enfants. Si vous pensez comme, comment est-ce qu'il s'appelle, j'oublie son nom, qui disait, les deux grands malheurs qui puissent vous arriver, le premier c'est d'être né, et le deuxième c'est de mourir. Bon, ben là, c'est pas la peine, ne transmettez pas à vos enfants. Donc j'en fais une question que je repose en disant, c'est à vous de choisir si vous appréciez ce que vous avez vécu ou si vous ne l'appréciez pas.
Et vous, Hubert Reeves, est-ce que vous seriez prêt à rempiler?
Absolument, je suis tout à fait émerveillé de ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais au total, ça valait le coup. Et je serai triste quand j'aurai à quitter ce lieu, j'allais dire ce paradis, pas toujours, mais ce lieu. Et pour moi, c'est quelque chose de fabuleux, simplement de pouvoir constater ce qu'est l'univers avec ses galaxies, ses étoiles, tout ça, c'est quelque chose de fantastique. Et donc, j'ai comme l'impression que ça, il y a comme quelque chose qui se passe et qui m'échappe. Grosso modo, ça m'échappe. Ça m'échappe tout ce qu'il y a dans cet univers, dans ces galaxies, ces étoiles, tout ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et dont je suis content de faire partie de toute façon, bien sûr.
Hubert Reeves. Son livre « La fureur de vivre » est publié aux éditions du Seuil.
Dans quel torrent, dans quel Coran, ou dans quel Nouveau Testament ont-ils trouvé cet héritage d'un autre âge?
En ouverture de cette année 2021, je vous propose de réentendre le trio musical de l'album Liberté. Un trio d'exception composé d'un juif, d'un chrétien et d'un musulman. C'est en réponse aux attentats de Paris de 2015 et de l'assassinat du père Jacques Hamel en juillet 2016 que Philippe Darmon, chantre dans une synagogue, Mathieu Delobier, prêtre et chanteur professionnel, et l'humoriste et essayiste Farid Adelkrim ont accepté le pari de chanter ensemble la liberté, l'harmonie, la fraternité. François Troller, avec Fatih Amar, qui ont perdu des proches dans l'attentat du Bataclan, sont à l'origine de ce pari et de ce CD dont je rappelle les paroles au début. Dans quel Torah, dans quel Coran, dans quel Nouveau Testament ont-ils trouvé cet héritage d'un autre âge? François Troller.
Il y a eu deux événements qui nous ont marqués avec Fatih Amar, qui était mon associé. C'est ces attentats du Bataclan, nous avons perdu beaucoup d'amis. Et surtout, l'assassinat du père Hamel, il y a maintenant 4 ans. Et c'est au lendemain de l'assassinat du père Hamel qu'on s'est dit, qu'est-ce que nous, attachés de presse du milieu de la musique, on peut faire pour que la religion ne soit pas que synonyme de violence, de haine et de guerre. Donc on a réfléchi et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne montrait pas ce groupe avec un prêtre, un rabbin et un imam? Voilà, l'idée est née le lendemain de l'assassinat du père Hamel. C'est pour ça qu'on a appelé notre société Hamel Productions, en mémoire du père Hamel, et qu'on s'est mis en quête de trouver ces 3 personnes, bons chanteurs, humanistes, avec des vrais parcours de vie, engagés dans leur religion, pour porter ce projet. Et on est donc très content qu'il arrive enfin.
Difficile à trouver.
4 ans. Oui, très difficile, parce qu'on était très exigeants sur les voix et sur le parcours de chacun. Il fallait vraiment les deux.
Philippe Darmon, hein, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes chantre. Alors, quelques précisions quand même pour nos auditeurs. Chantre, c'est celui qui chante, hein, dans une synagogue.
Tout à fait. Chantre, c'est celui qui chante les offices à la synagogue et qui fait la prière pour tout le monde. Il y a une personne qui fait à voix haute en chantant et les autres fidèles participent, répondent, mais c'est le chantre qui guide et qui dirige l'office.
Vous êtes plutôt ténor?
Oui, tout à fait. Bon, je vais chanter dans toutes les opéras, la partie ténor, et la voix se situe plutôt en haut, Mais bah après, c'est vrai que dans la synagogue,
c'est différent.
C'est différent. On peut adapter un peu la voix, mais la tessiture, elle est toute au niveau ténor. Ouais.
Alors, Mathieu Delobier, vous êtes prêtre depuis l'âge de 51 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps, manifestement. Et vous êtes, alors, vous avez été journaliste.
Oui.
Et puis vous êtes chanteur professionnel.
Oui, j'ai été journaliste d'abord, mais en fait, je venais du théâtre et j'ai fait du journalisme en me disant. J'ai besoin de vivre en attendant de devenir chanteur. Non, j'ai adoré ce métier, mais je suis vraiment devenu chanteur. Et ça a été mon métier, ma passion, ça reste ma passion. Évidemment, je l'exerce peut-être moins intensément qu'avant, mais quoique, comme prêtre, la première chose que je fais le matin, mais la première chose, c'est de chanter. Voilà, je chante « Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange », c'est-à-dire les psaumes du matin. Donc le chant, c'est toute ma vie, tout le temps, du matin au soir.
Farid Abdelkrim, alors moi, je vous connais, enfin, nous vous connaissons comme comédien, comme humoriste. Moi, je ne vous connaissais pas comme chanteur.
Eh oui, comme quoi j'ai plusieurs cordes à mon arc et celle-là vient de sortir grâce au projet, grâce à François et puis surtout grâce à cette rencontre avec Philippe et Mathieu, parce que c'est pas le tout de chanter. Alors moi je suis ni baryton ni ténor, je sais pas où je me situe. Moi je suis un petit peu l'escroc de l'affaire, je suis celui qui arrive et qui chante un petit peu au feeling et le fait de dire que c'est au feeling, on le fait aussi par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on écoute des autres et de les avoir entendus chanter tous les deux, effectivement, ça donne envie de venir avec beaucoup d'humilité, placer sa voix et faire quelque chose qui a vraiment du sens. On est vraiment dans un projet qui a du sens et donc voilà, je chante parce que j'aime ça et je chante aussi parce que je pense que c'est un beau projet.
Oui, Farid Abdelkrim, je rappelle votre parcours. Hein, vous étiez un membre des Frères musulmans et puis vous les avez quittés, vous avez écrit un livre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans. Puis après, vous êtes devenu acteur, comédien, voilà. Et toujours avec cette... en ligne de mire, lutter contre la radicalisation, parler aux jeunes des banlieues, s'exprimer auprès d'eux pour que voilà, ils évitent de tomber dans le piège de la radicalisation.
Oui, ce que je dis en général, c'est que avant de devenir frère musulman, je chantais moi aussi, mais ça c'est dans une autre vie, je devais avoir 17 ans, 18 ans et je chantais dans un groupe de rhythm and blues et j'ai arrêté la musique justement à cause de ma conversion à l'islam, pensant à l'époque que la musique était illicite, haram, et 25 ans après, dans mes spectacles, mais surtout dans cet album, j'ai renoué avec cette passion, qui était aussi une passion effectivement, et donc nous y voilà.
François Treuler, la conception de l'album, on a entendu au début cette la première chanson qui est le clip, et Dieu dans tout ça, donc la musique de Francis Lai. Et les paroles de Frédéric Zetoun. Voilà.
Tout à fait, oui. Hein,
ça, c'est ça. Après, il y a, en fait, des tubes. Vous reprenez tous des tubes.
C'est ça. Dans l'idée, je voulais pas qu'on fasse uniquement un album de reprise. Je voulais qu'on marque un petit peu la différence avec d'autres projets qui ont pu être faits, en ayant quelques inédits. Surtout qu'on avait une thématique assez forte, c'est le vivre ensemble et la tolérance. Donc, la ligne directrice, c'était des chansons sur ce thème-là et, si possible, quelques inédits. Donc, nous sommes allés solliciter quelques amis artistes. Et donc, on a eu ce cadeau de Francis Lai qui nous a composait cette chanson qu'il a maquettée quelques jours avant de mourir. La maquette a été faite chez lui quelques jours avant son décès, sur ce très beau texte de Frédéric Zetoun, qui traite des conséquences des attentats sur la religion. Donc c'est le premier extrait. Ensuite, on a eu un très beau texte de Marc Lavoine, et un inédit signé par nos trois amis ici présents, qui ont chacun écrit un couplet de la chanson à l'unisson, qui est une sorte de prière de fin d'album, qui est très, très, très jolie également. Donc c'est important d'avoir des inédits et des reprises, de chansons connues ou moins connues sur le thème du vivre ensemble, de la tolérance. On va pouvoir découvrir par exemple l'Olivier de Wallen, qui est pas forcément connu du très grand public, mais aussi chanté pour ceux de Michel Berger, ou Bravo Monsieur Le Monde de Michel Fugain, donc des chansons très différentes, mais toujours sur cette ligne directrice du vivre ensemble, de la tolérance.
Et de la beauté aussi.
Et de la beauté, évidemment.
Alors on va écouter Pour le ciel, donc interprété par vous trois, Pour le ciel de Marc Lavoine.
Pour l'appel, l'amour éternel, la prunelle de tes yeux. Pour Angèle, pour Abdel, pour les Samuel, pour le miel, pour l'universel, la prunelle de tes yeux. Cesse le feu, pour que cesse le feu. Oh, oh, oh.
Farid Abdelkrim, je vous vois quasiment danser sur, oui, cette, oui. Sur cette air. Ça vous a plu pour Le ciel de Marc Lavoine?
Ah, très très très, très joli morceau. Moi, tous les morceaux de l'album me plaisent, et puis s'il y en avait d'autres, il me plairait aussi. La musique a ce site particulier, c'est qu'elle peut vous transporter, vous amener à faire fi de toutes les différences, dans le sens où on peut se rapprocher de plein de monde parce que ça a ce côté universel. Et ouais, cette chanson Pour le ciel est une très très belle chanson avec une très belle mélodie, et puis les paroles aussi me plaisent beaucoup, donc ça me fait bouger. Ouais, j'ai la bougeotte quand j'entends de la musique.
Mathieu de Laubier.
Oui, c'est la première chanson que j'ai enregistrée en arrivant sur le projet, et je trouvais qu'elle était, ouais, pleine de poésie, pleine de... Alors, pour la petite histoire, je l'avais en tête quand je suis rentré le soir pour... Et puis j'ai rencontré mes collègues prêtres, je leur ai chanté, et c'est devenu un peu le tube de la cuisine du presbytère.
Et Philippe Darmon, vous, cette chanson?
Alors, c'est vrai que j'adore cette chanson, mais je peux pas dire que j'ai une préférence vraiment pour une des chansons. En général, moi, j'aime la musique. Dès que c'est bien fait, dès que c'est beau, j'adore. Donc, pour moi, naturellement, cette chanson est magnifique, mais je pense que toutes les chansons de l'album, et au niveau de l'air, et au niveau des paroles, sont très bien interprétées grâce à mes collègues, et bien aussi mis en musique et mis en avant.
Des paroles faites pour élever, Farid Abdelkrim?
Je pense que ici autour de cette table, je ne pense pas me tromper en disant que de François à vous, Geneviève, en passant par Philippe, Mathieu et moi-même, on a tous cette volonté, cette prétention à connaître des moments comme ça d'élévation spirituelle, quelle que soit la tradition qui est la nôtre. Et la musique, incontestablement, permet de connaître de temps à autre, comme ça, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, voilà, des trucs qui se passent. Et ouais, c'est un morceau qui, par son texte, nous amène à méditer quelque peu, même si la méditation, je l'entends peut-être aussi un peu différemment, notamment à travers le silence. Je crois que après un morceau comme ça, c'est bien de s'arrêter sur un silence, et je pense que les deux vont bien ensemble.
Alors, il y a une chanson qui m'a étonnée, mais qui est très belle, hein, dans cet album, c'est la chanson François Hardy et Mon ami la rose. Quelques extraits.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né. Baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses.
Alors Philippe Darmon, là c'est là, c'est vous que j'entends là.
Le dernier, oui.
Là, oui, c'est vous, hein, c'est bien vous. Ça vous a plu de la chanter?
Des ténors, hein, c'est quand même. tu vois que t'es ténor.
Pour moi, d'abord, d'ailleurs, c'est un exercice que j'avais pas l'habitude.
Eh oui.
Moi, je chante qu'en hébreu en général, et j'ai accepté pour la première fois de chanter en français, mais je vous assure que ça, l'exercice m'a énormément plu.
Ça vous a pris quoi?
Déjà un autre répertoire, des rencontres magnifiques et des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire en général. Donc ça sortait un peu de l'ordinaire. Et à part le message extraordinaire que cet album veut, veut montrer aux gens. Donc oui, j'ai adhéré complètement et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir.
Quel message et mon ami La Rose, Mathieu Delogier.
C'est le message de la fragilité. Je trouve que c'est une chanson qui est touchante parce que c'est vraiment la chanson qu'on chante. On prend sa guitare et puis on chante comme ça, doucement, sur le souffle, tranquillement. Il n'y a pas de... Vocalement, c'est très paisible. Moi, ça me renvoie à mes premières expériences de chant. Hein, quand j'étais petit scout et qu'on chantait autour du feu, on sortait les guitares, on devait jouer super faux, chanter super faux. Mais moi, ça va... Dans le fond, je suis resté ça. C'est ça que je suis resté au fond de moi. C'est que... Le chant, ce genre de chanson qu'on chante comme ça sur le fil, doucement, avec un souffle de voix, avec quelques accords, c'est le bonheur d'être là. Voilà.
Farid Abdelkrim, cette chanson et mon ami La Rose, qu'est-ce qu'elle vous apprend? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, dans cet album?
Oh bah plein de choses. Moi, ouais. De toute façon, comme je le dis, on n'a pas eu le choix. François était là et nous a dit, vous allez chanter ce que je vous demande de chanter, point barre.
C'est comme ça.
Non, je plaisante, c'est une blague. Non, moi, en fait, plein de choses, mais il y a un truc vachement intéressant dans le couplet que je chante, moi, oui. Mais je pense que peut-être que Philippe et Mathieu s'y retrouveront, c'est que je chante à la première personne du singulier, au féminin. Et ça, je trouve ça vachement intéressant de voilà, un mec qui est d'origine méditerranéenne, un peu macho sur les bords, se mettre dans la peau comme ça d'une rose, d'une femme, de quelqu'un de fragile. Et ouais, c'est plutôt
qui
sympathique.
Va vieillir, qui va vieillir, ouais, aussi, ouais.
Non, mais c'est voilà, il y a ce petit truc sympathique que moi j'ai vécu, et puis c'est une très 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 belle chanson, vraiment une très belle chanson.
Magnifique. Alors on se quittera sur À l'unisson, c'est un peu la chanson de conclusion, hein.
C'est comme l'a dit tout à l'heure François, c'est effectivement avec ça qu'on conclut l'album. On avait chacun la charge de trouver quelque chose à dire qui pouvait nous marquer sur le moment, au moment où on l'a dit. Et en tout cas, moi, il me semblait qu'il était important que je parle de cette notion de vérité que tout le monde prétend détenir, la vérité avec un grand V. Or, je crois, moi, qu'on a juste une petite partie de cette vérité, que c'est ce qu'il faut pouvoir partager. Et donc, ouais, terminer avec ce morceau, c'est très très bien, mais l'album peut s'écouter
dans tous les sens. Je suis d'accord. Philippe Darmon,
je voudrais juste remercier Christophe pour les arrangements qu'il nous a...
Christophe, attendez son nom de famille.
Christophe Cazalave, qui a fait la réalisation, tous les arrangements vocaux et une partie des compositions. Et
pour ma part, j'avais l'impression que même les chansons connues, c'était une nouvelle chanson.
Absolument.
Oui, bah, Mathieu, je participe à ce Mathieu concert Debier. De louanges. Et puis, cette chanson, elle est osée quand même, hein, parce que c'est carrément une profession de foi qu'on nous a demandé. Je ne sais pas si dans le monde de la chanson, on a tellement l'occasion de dire comme ça, de parler en mots simples et francs de notre relation à Dieu et notre relation aux autres, un peu sans détour. Je trouvais que c'était osé.
Merci à tous les quatre d'être venus pour donc cet album.
Merci à vous.
Liberté, qui sort le 9 octobre prochain chez Hamel Productions. Hamel, donc, du nom du prêtre assassiné aujourd'hui, qui est une figure interreligieuse, en fait. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Chantons en chœur avec la foi. Il n'y a qu'un Dieu pour toi et moi. À l'unisson d'une même voix.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.